Alors, voilà, donc moi, je prépare une thèse de sociologie qui s'intitule « Performativité des discours sexués sur les jouets dans la socialisation de genre ». Alors, je vais de toute façon expliquer un petit peu sur quoi je travaille, mais un volet en particulier de cette recherche. Alors là, en l'occurrence, je voulais préciser qu'il y avait deux choses qu'on pouvait étudier, et là, je parlerai de ces deux éléments. D'un côté, la transmission de normes, de valeurs sexuées, en l'occurrence. Et donc, je vais parler aujourd'hui, dans la première partie, du marketing du jouet, comme vecteur de diffusion de normes de genre à grande échelle. Notamment, on peut travailler sur les distributeurs et sur les fabricants. Je parlerai essentiellement des distributeurs, avec une analyse de catalogues et de magasins, notamment, où on peut étudier à la fois les textes qui se situent dans ces catalogues, les argumentaires de vente, par exemple, des jouets, les images, il y a beaucoup d'images dans les catalogues, de photographies qui représentent des enfants, des couleurs qui sont intéressantes aussi à analyser, des chiffres comme, là j'en parlerai pas dans ma présentation, mais l'âge minimum conseillé, c'est intéressant de comparer l'âge minimum pour les garçons et pour les filles, pour plein de jouets dont on va faire une moyenne par exemple. Et puis les espaces, la manière dont sont organisés les espaces, notamment dans les magasins de jouets et dans les catalogues avec la signalétique. Du côté de la réception, et là ce sera l'objet de mes deux parties suivantes, je travaillerai donc sur la manière dont ces normes sexuées peuvent être interprétées, réinterprétées par plusieurs catégories de population, et notamment en l'occurrence, je parlerai dans la deuxième partie de militantes et de militants féministes qui font des actions notamment dans des magasins de jouets ou sur Internet. Donc critique de ces normes. Et puis dans la troisième partie, je parlerai des parents qui essayent de remettre en question ces normes dans la socialisation de leurs enfants. Donc voilà la question que je me pose pour cette intervention. Quelles sont les injonctions de genre dans le marketing du jouet, les modalités d'action de groupes féministes et stratégies de certains parents pour les déconstruire? Voilà, l'orientation. Alors oui, je me disais que ça pouvait être intéressant de vite fait vous montrer ça. Ceux qui ont déjà lu. Pour le côté réception, j'ai marqué que je travaille sur les militants, notamment les groupes féministes et aussi les groupes réactionnaires. Donc le jouet, c'est utilisé notamment les groupes réactionnaires pour diffuser aussi certaines idéologies. Donc là, vous pouvez voir par exemple ce qui a été publié sur Twitter il y a quelques temps. Cette image-là qui est un patchwork du catalogue Hyper U, Super U, dont vous avez peut-être entendu parler, qui montre quelques images effectivement qui remettent en question les stéréotypes de genre. Et il y a eu ce fameux, enfin, magnifique message: avec Super U, toi aussi apprends à ton fils à devenir pédé et à aimer les noirs. Voilà, parce qu'on voit notamment un petit garçon qui s'occupe d'un poupon noir en haut. Donc voilà, le type de message qu'on a pu lire, des messages à la fois homophobes, racistes, sexistes et tout ce que vous voulez. Donc c'est intéressant aussi de travailler sur ces discours-là, mais là je ne les présenterai pas, mais bon, je me suis dit, tiens, en introduction, au moins, ça pose un petit peu le cadre. Et puis aussi, finalement, ça peut aussi être utilisé, les jouets, pour critiquer ces injonctions, ces normes, et puis critiquer aussi ces discours réactionnaires. Donc là, vous connaissez peut-être Nawak, qui est un illustrateur, qui fait des BD très intéressantes, et là, vous voyez des parents... plutôt genre manif pour tous, hein. Docteur, nous pensons que notre fils a attrapé le gender à l'école. L'année dernière, c'était les poux, donc là, le médecin, il n'en peut plus. Et on voit le petit garçon en train de jouer avec des Barbies, ce qu'on imagine être des Barbies. Voilà, donc le plan d'intervention, je vous l'ai déjà expliqué. D'abord le marketing, ensuite les actions féministes et puis les stratégies des parents. Donc les assignations de genre dans le marketing du jouet et leur évolution. Donc déjà, de manière très grossière, si vous êtes déjà dans des magasins qui vendent des jouets à Noël, vous avez observé que souvent il y a ce type de signalétique-là, en particulier dans les grandes surfaces. Là, en l'occurrence, c'est Carrefour. Dans les magasins spécialisés dans le jouet, c'est souvent aussi le cas, mais encore plus dans les grandes surfaces. Donc là, vous voyez, par exemple, jeu garçon, jeu fille, deux allées très séparées, c'est très très clair. Il n'y a pas 40 allées différentes. Il y a souvent les jeux premier âge, les jeux de société, et puis souvent les Lego, par exemple, qui sont à part avec les Playmobil, mais on a ces deux rangées-là qui sont distinctes, avec des couleurs. Les boîtes aussi distinguent beaucoup des jouets adressés d'un côté aux garçons, de l'autre côté aux filles. Parfois, des jouets qui sont strictement identiques, mais bon, il va y avoir une couleur différente, ou alors ça ne va pas représenter exactement les mêmes personnages. Donc là, vous voyez, par exemple, les éléphants, vous avez un rose et un bleu. Les lucioles, c'est intéressant, parce que pour ceux qui sont de ma génération, dans les années 80, il y avait une luciole qui existait, qui était verte. Donc là, maintenant, vous avez la luciole bleue ou la luciole rose à acheter, donc au choix, l'une ou l'autre. Après, voilà, dans les jeux de société également. Donc, vous voyez, dans les jeux premier âge, déjà, il y a cette distinction qui existe. Dans les jeux de société également, vous voyez, Memory, avec ce qu'on appelle des licences. Donc là, par exemple, vous avez la licence Cars et la licence Hello Kitty. Donc, les licences, c'est des petits personnages, en général, qui sont ensuite commercialisés par différents fabricants. Donc, il peut y avoir plusieurs fabricants qui vont utiliser l'image Hello Kitty, plusieurs fabricants qui vont utiliser l'image Cars. Et là, en l'occurrence, ces licences, elles se sont énormément développées au cours des dernières années et elles segmentent vraiment le marché du jouet en, d'un côté, des choses qui vont être adressées aux garçons et de l'autre côté, des choses qui vont être adressées aux filles. Donc, Cars, clairement, c'est pensé en tout cas comme adressé aux garçons et puis Hello Kitty pour les filles. Ensuite, les Playmobil, là, vous avez le calendrier de l'Avent avec d'un côté des petites fées, de l'autre côté des chevaliers, etc. Et puis VTech aussi, pareil, pour les enfants, plutôt premier âge. Et d'un côté pour les garçons, de l'autre côté pour les filles. Bon. Voilà d'autres types de jouets également. Je passe assez rapidement. Les jeux de science, souvent, vous voyez, là, il y a un garçon et une fille avec leur père, parce que la science, quand même, c'est un truc de mec. Et puis la chimie, là, il n'y a plus qu'un garçon. Effectivement, l'avatar qui est utilisé par Bucky, là c'est Bucky, c'est un garçon, sauf dans certains cas, comme par exemple quand il s'agit de faire des cakes, etc. Là, ça va être des filles. Oui, alors là, c'est intéressant aussi de montrer que les jouets ne représentent pas la réalité sociale, hein, parce que souvent on dit oui, mais bon, c'est la réalité, il y a des inégalités dans la réalité, donc bah, les jouets aussi, il y a des inégalités, sauf qu'en réalité, il y a des inégalités, certes, dans la réalité, celle qu'on connaît, vous et moi, mais dans les jouets, les inégalités sont beaucoup plus accentuées. En tout cas, dans le marketing du jouet, les inégalités sont beaucoup plus fortes. Donc, il y a plusieurs éléments qu'on peut analyser, notamment au niveau des métiers. Il va y avoir uniquement les métiers ultra-masculinisés ou ultra-féminisés qu'on va retrouver dans les jouets. Donc, par exemple, ouvrier de chantier, pilote de rallye, pilote de ligne, voilà, des métiers où on va trouver que des garçons, ou quasiment que des garçons, bah, c'est ce type de métier qu'on va retrouver dans les jouets. Les métiers mixtes, en général, ils y sont pas, ou alors ils ne sont pas présentés comme mixtes. Par exemple, le métier de médecin, je vous ai donné l'exemple à la fin, le métier de médecin, c'est quasiment exclusivement masculin dans les jouets. Or, dans la réalité, si vous allez en école de médecine, il y a beaucoup plus aujourd'hui de filles que de garçons. C'est un métier qui se féminise fortement. Donc en 2014, dans le métier en lui-même de médecin, il y avait quand même encore un peu moins de femmes que d'hommes. Il y a à peu près 42% de femmes, 58% d'hommes dans le métier de médecin. Mais c'est parce qu'il y a toutes les anciennes générations qui sont en train de partir à la retraite également. Et donc du coup, comme il y a beaucoup plus de femmes en école de médecine que d'hommes, bah, c'est un métier qui tend à devenir beaucoup plus féminin que masculin. Mais en l'occurrence, dans les jouets, c'est masculin. Parce que le métier de médecin représente la connaissance, le savoir. Souvent, les petits garçons qui sont représentés ont des lunettes pour indiquer vraiment qu'ils connaissent, ils savent. C'est la représentation de l'expert. Et c'est en opposition aussi à l'infirmière qui, elle, est systématiquement une petite fille. Qui, elle, va être représentée plutôt, non pas dans le savoir, mais dans le care, le fait de s'occuper des autres, de prendre soin de l'autre, de prendre soin des animaux, de prendre soin des bébés, etc. Donc, première chose. Ensuite, la participation des femmes à la vie économique est niée. Les femmes sont au foyer, en général, dans les catalogues de jouets, dans les magasins, dans le marketing du jouet, de manière générale. Elles sont présentées comme étant au foyer, s'occupant des bébés, et s'occupant d'elles-mêmes aussi, de tout l'aspect esthétique. Voilà, mais on est vraiment beaucoup dans le care. Elles travaillent quasiment pas en dehors du foyer, hein, et pas d'activité économique, alors que, bah, vous le savez aussi, peut-être sur 100 personnes, sur 100 actifs, on est à 49% de femmes pour 51% d'hommes. Bah, dans les jouets, c'est pas le cas. Dans le marketing du jouet, c'est pas le cas. Et c'est pareil d'ailleurs, il y a eu pas mal d'enquêtes aussi quantitatives sur les livres pour enfants. C'est la même chose. Les femmes qui ont une activité rémunérée dans les livres pour enfants, elles sont très minoritaires. Les femmes sont présentées comme des mères qui s'occupent de leurs enfants dans les livres pour enfants. Et c'est papa qui va travailler. Hein. On le voit le matin, il part de la maison, il est pressé. On le voit le soir, il rentre avec sa sacoche et il se pose. Et il attend le repas. C'est un petit peu encore ce qu'on voit dans les livres. Donc, travail domestique des hommes aussi qui est quasiment inexistant. Ils font absolument rien dans le foyer. Ils sont forcément en dehors, toujours en train de faire d'autres choses. La seule chose qu'ils font et qu'ils sont les seuls à faire quasiment, c'est le bricolage. Là, par contre, on ne va pas trouver de filles ou quasiment pas. Donc là, c'était intéressant, sur une même image, on voit un petit garçon et une petite fille. Vous voyez, le petit garçon qui est médecin, la petite fille qui est... On imagine que c'est maman et pas femme de ménage, mais bon, c'est pas trop. Et quand on lit l'argumentaire de vente qui est écrit en dessous, que je vous ai retranscrit, d'un côté, c'est chariot médical tronique, le chariot idéal pour jouer au médecin. Et puis de l'autre côté, clean service, super ton chariot pour faire le ménage dans toute la maison. Sur une même page, donc là, au moins, ça a le mérite d'être clair. C'est intéressant parce que le métier de médecin, souvent, il est placé dans les pages filles, quand il y a des pages filles et des pages garçons. Mais c'est un garçon qui est médecin. Parce que finalement, métier de médecin, où est-ce qu'on le place dans un catalogue, étant donné que ça ne va pas trop avec les autres métiers, parce que les autres, c'est toujours lié à l'aventure, au danger, etc., au défi. Là, le métier de médecin, il est placé plutôt dans les pages filles parce que c'est plutôt lié à tout ce qui est care, entretien des autres de la maison, etc. Et en même temps, on ne peut pas mettre une fille quand même médecin, donc forcément, ça va être un petit garçon qui va être représenté comme médecin, même si c'est dans cet environnement de care. Donc, du coup, ça donne des choses assez, assez intrigantes. Donc voilà les petites filles que vous pouvez observer en train de faire le ménage, s'occuper de repasser, de faire à manger, etc. Elles sont toutes récentes, sauf celle qui est en bas à gauche, qui est un peu plus ancienne. Mais voilà, elles sont toujours très très heureuses de faire toutes ces tâches domestiques. Et puis là, vous avez les garçons aussi qui sont très très contents de bricoler. Et voilà, on trouve quasiment aucune contre-occurrence. Vous allez difficilement trouver, ça existe, mais on trouve difficilement des garçons qui s'occupent du ménage et des filles qui s'occupent du bricolage. C'est assez rare. Le seul chose qui peut être à peu près mixte, c'est la cuisine. On peut voir un garçon et une fille devant une cuisine, mais alors il faut regarder un peu plus dans le détail. Parce que des fois, quand on regarde dans le détail, vous voyez la petite fille en train de cuisiner et le petit garçon en train de couper son steak, en fait, sur la table quoi, de la cuisine. Donc il faut regarder un peu plus en détail. Mais parfois, effectivement, ils font ensemble. Parfois même, on peut trouver des garçons tout seuls. C'est un peu le jouet qui commence à être un peu plus mixte. Voilà, alors un petit panorama assez rapide de mes travaux par rapport à la question du corps, du rapport au corps. Il y a énormément de choses que je pourrais raconter, mais bon là du coup je coupe un petit peu. Donc j'ai fait, il y a tout un volet de ma recherche qui porte sur le rapport au corps, la matérialité du corps, les postures corporelles et la gestuelle. Donc là on voit par exemple des garçons qui sont présentés pour vendre du déguisement, des déguisements. Donc j'ai travaillé beaucoup sur les déguisements. Et là on voit leur posture qui, il y a certaines similarités dans ces différentes postures. On voit que très souvent ils ont les poings sur les hanches ou les poings en l'air comme ça, les jambes écartées, vous voyez, ils sont de face très souvent, prêt à dégainer une arme, voire l'arme qui est déjà dégainée, qui est déjà prête. Il y a une stabilité, on voit ils sont droits dans leurs bottes, une combativité dans le regard notamment, une gestuelle qui est offensive, vous voyez Spider-Man par exemple. Donc c'est ce type de représentation qu'on observe dans les catalogues de jouets. Ce qu'on ne voit pas forcément tout de suite au premier coup d'œil, dans la mesure où souvent il n'y a pas de page spécialement pour les déguisements dans les catalogues de jouets. Il va y avoir un déguisement à telle page. Vous avez une page sur plein de produits dérivés de Spider-Man, vous allez avoir le déguisement Spider-Man. Il y aura une autre page où il y aura autre chose et il y aura encore une fois un déguisement et ainsi de suite. Donc on ne le voit pas forcément. Mais quand on met tout comme ça sur une même page, là on peut commencer à regarder et faire des rapprochements. Donc là vous avez les postures des filles qu'on retrouve en général. Donc vous voyez là par contre, on est plutôt du côté de la grâce, des doigts qui sont délicatement écartés pour montrer aussi la finesse, la fragilité, un talon surélevé de temps en temps, elles font la révérence. Là, plus d'instabilité, autant les garçons c'était droit dans leurs bottes, jambes écartées, là vous voyez, souvent les pieds joints ou un pied un petit peu relevé, etc. Donc là, faut pas trop les pousser, sinon elles peuvent tomber, je crois. Plus de fragilité, de coquetterie, aussi d'élégance, une gestuelle beaucoup plus douce. Et aussi, c'est... Alors voilà, on a un petit peu tombé, on ne sait pas trop. Elle, vous voyez les mains aussi comme ça, c'est intéressant. Donc je me suis questionnée aussi sur ces mains-là. Mais j'en parle juste après. Par rapport au torse, c'est intéressant. Vous voyez à la fois les figurines. Là, j'ai fait une comparaison aussi. Ça, c'est des figurines ou des poupées mannequins. Et puis là, c'est des vrais enfants qui sont déguisés. Et donc, il y a une similitude aussi entre les deux, entre l'objet, le petit objet, et puis l'enfant lui-même. Donc, vous voyez d'un côté vraiment des muscles, des gros muscles, et de l'autre côté, beaucoup plus une finesse. Et vous voyez notamment les Monster High, vraiment une finesse, là, pour le coup, des jambes, etc. Barbie est beaucoup critiquée pour le fait que ses proportions sont irréalistes. Mais à la limite, Barbie, quand on regarde les Monster High, Barbie, elle est obèse à côté des Monster High. Et donc là aussi, alors virilité aussi et sexualisation. Donc là, vous voyez, on a vu juste avant le catcheur. Là, vous avez le catcheur en garçon. C'est pareil, représentation des muscles aussi dans les déguisements, en mousse. Et là, vous voyez la Monster High. Vous pouvez aussi vous habiller en Monster High. Vous voyez les postures des filles. Souvent, il y a des choses quand même relativement similaires. Donc là, c'est Draculaura et Frankenstein, si vous cherchez Frankenstein, déguisement gothique. Alors bon, les parents souvent ne sont pas forcément, n'apprécient pas forcément toujours ces choses-là, comme j'ai pu le constater lors de mes observations. Je ne détaille pas là-dessus, mais bon. Très rapidement, le visage, j'ai remarqué qu'il était beaucoup masqué pour les garçons, soit intégralement, soit partiellement. Donc là, vous voyez les visages masqués à gauche. Pour les filles, c'est pas masqué, c'est mis en valeur, du maquillage, des bijoux, etc. Donc il s'agit plutôt de montrer à quel point on est belle, hein, pour une fille. Et puis pour les garçons, on est beaucoup plus dans le déguisement quand même, hein. On masque son identité, on la travestit, on devient vraiment quelqu'un d'autre. Alors que pour les petites filles, c'est plus devenir belle, quoi. Et puis les petits garçons peuvent représenter le bien ou le mal, faire le bien ou faire le mal. Des personnages méchants aussi, les petites filles, c'est faire le bien, être gentille, être belle et se donner en représentation. Les jambes et les bras, alors j'ai un petit peu coupé, et les pieds aussi, on voit pareil, c'est couvert chez les garçons, c'est découvert chez les filles. Les mains aussi, ça c'est intéressant, l'appréhension contre la délicatesse. Les personnages qui sont adressés aux garçons, souvent, vous voyez, c'est des mains comme ça, hein, c'est, qui peuvent tenir une arme, d'ailleurs qui souvent ont une arme, hein, des mains qui font des choses, qui peuvent prendre, qui peuvent blesser, qui peuvent... voilà. Et les mains des filles, vous voyez, on est plus dans la présentation, dans la représentation, elles sont posées délicatement. La taille des mains des personnages aussi est intéressante à analyser, vous voyez, j'ai développé un petit peu aussi. Alors là, j'ai pris mes propres jouets, enfin, des jouets que j'ai achetés par la suite, hein, que j'avais pas quand j'étais petite. Alors, quelques dichotomies que j'ai remarquées, mais là, vraiment, que je ne vais pas développer du tout. En fait, les dichotomies classiques, hein, qu'on observe quand on travaille sur les questions de genre. Les filles sont du côté de l'intérieur, les garçons du côté de l'extérieur. Les filles ont une approche plutôt restrictive de l'espace, hein, il faut prendre moins d'espace, et on est dans des pièces intérieures des maisons, notamment les châteaux, etc. Les garçons ont une approche beaucoup plus extensive de l'espace, des véhicules radiocommandés, hein, ça va loin, etc. Donc, voilà. Les filles sont plutôt dans le présent, la quotidienneté des actions telles qu'elles sont en train de se passer, qu'il faut gérer. Le bébé, il pleure, bah, il faut lui donner sa tétine, il faut lui donner à manger, etc. Bon, on est dans le présent. J'ai fait une analyse textuelle, une analyse lexicométrique, donc des statistiques sur les argumentaires de vente des catalogues de jouets. Et on observe très clairement le fait que les filles sont vraiment dans l'instant immédiat à devoir gérer ce qui est en train de se passer, donc dans le présent. Les garçons, eux, ils ont le futur, hein, et toujours une conditionnalité aussi. Est-ce que tu vas arriver ? Arriveras-tu à dompter l'araignée géante qui se cache dans l'ombre, etc. Toujours du danger, du défi sur « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Par la suite, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, quotidienneté du foyer d'un côté, et vraiment une monotonie aussi des tâches. En tout cas, c'est pas présenté comme ça, mais on observe quand même un petit peu ça. Et puis, une maîtrise du temps, au contraire, chez les garçons, mais des injonctions à maîtriser le temps aussi. Donc, des injonctions, c'est vraiment la nécessité. Il faut combattre, il faut aller vite, il faut aller fort, il faut être le meilleur, il faut maîtriser les éléments, maîtriser les animaux méchants, maîtriser les gens méchants, etc. Et toujours aller plus loin, toujours aller plus fort aussi. Donc, il y a des injonctions des deux côtés, à la fois du côté des garçons et du côté des filles. La vitesse qui est omniprésente du côté des garçons. Donc on est dans la coopération, la sécurité et l'amour, dans les relations interpersonnelles entre les personnages et entre les personnages et les enfants du côté des filles, et plutôt la compétition, le danger et la domination du côté des garçons. C'est vraiment l'aspect communicationnel et verbal qui est mis en avant du côté des filles, comme on peut l'observer dans plein d'autres enquêtes. Hein. Là, pareil, hein, ça fait vraiment... c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on observe dans plein d'enquêtes différentes, notamment les psychologues sociaux, par exemple, qui observent que les filles sont beaucoup plus, quand elles sont petites, hein, les bébés, sollicitées sur le plan verbal et social. Hein, on répète leur babillement, on essaye de leur parler, de les faire verbaliser, etc. Alors que les garçons sont beaucoup plus socialisés sur le plan moteur. On les fait marcher, on les fait courir, on les fait s'asseoir, etc. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on observe aussi. Et la mécanique, hein, tout ce qui est lié au véhicule, à la vitesse, etc., du côté masculin. Donc pratique contre technique également, on observe ça. Donc là, vous voyez, par exemple, deux camping-cars. D'un côté, le camping-car tout rose, etc., qu'on imagine être pour les filles. L'autre côté, l'autre camping-car qui pourrait être mixte, mais bon, c'est quand, au moment où il existe une autre gamme qui est rose, on peut du coup se dire que ah bah la gamme qui pouvait être mixte à la base devient un petit peu non mixte, plutôt pour les garçons. Et donc là, vous voyez l'extérieur du camping-car plutôt... avec des choses, des vélos, des choses comme ça qui permettent d'aller se promener. Alors que là, quand on a l'intérieur du camping-car pour les filles, vous avez tout ce qui est essentiel quand vous partez en vacances. Donc, il y a baldaquin d'abord, c'est très important. Votre nécessaire de maquillage, de toilette, etc. Donc les toilettes, quand même, parce qu'on ne va pas aller faire pipi dans la forêt non plus. Hein. Le grand miroir, etc., etc. Donc là, plutôt, voilà, les pièces intérieures, encore une fois, ce qui est important, c'est pas la balade dans la nature, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans le camping-car. Alors, l'amplification, je vous l'ai dit, de la segmentation, elle passe notamment par les licences, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, par exemple, vous avez la Reine des Neiges, et il existe plein de licences, ça marche super bien, et ça contribue vraiment à distinguer d'un côté, hein, ce qui va s'adresser aux garçons et ce qui va s'adresser aux filles, avec des licences qui vont se décliner sous mais tous les objets possibles et imaginables. Donc, vous avez du papier toilette Hello Kitty, par exemple. Hein, si vous avez envie, dans vos toilettes, d'avoir du papier toilette Hello Kitty, ça existe. Il y a absolument tout qui existe. Le dentifrice, le gel douche, le parfum, les cartables, évidemment, tout ce qui est lié au scolaire, les cartables, les trousses, etc. Les vêtements, bon, tout existe dans ces licences et ça fait vendre. Et il y a un renouvellement important parce que, bah, tiens, il va y avoir un nouveau film Disney qui va sortir. Ah, bah, il va y avoir tous les produits dérivés. Alors, bizarrement, le film, il sort toujours vers septembre-octobre, juste avant le catalogue de jouets qui sort mi-octobre. Et après, tous les produits dérivés qui sont vendus à ce moment-là, sachant que le plan marketing, il démarre déjà bien avant, hein, au tout début de l'année civile, voire même peut-être un peu avant. Et voilà, il est prévu ensuite de vendre tout ça. Et puis, il y aura un autre film, il y aura plein d'autres choses qui seront vendues, etc. Et ce sera vendu soit pour les garçons, soit pour les filles. En tout cas, le plan marketing sera clairement soit pour les uns, soit pour les autres. Alors, les rubriques, bon là, j'ai repris des choses que j'avais fait en 2012. Noël 2012, souvent, on retrouve des rubriques garçons et filles dans les catalogues de jouets. Hein. C'est la majeure partie du temps, on trouve ça. Même quand on trouve pas ça, de toute façon, il y a une distinction. Là, vous voyez, tout faire comme maman, c'est vraiment marrant, c'est relativement clair, avec tout du rose, etc. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est plus les supermarchés que les magasins spécialistes qui effectuent cette distinction. Alors, il y a un accroissement de la segmentation de genre, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure. Alors, cet accroissement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est au début des années 90. On l'observe à partir du début des années 90. Avant les années 90, c'était beaucoup moins distingué entre d'un côté les jouets pour garçons et de l'autre côté les jouets pour filles. Au niveau des rubriques, déjà, on trouvait des rubriques plutôt par type de jouets. Les voitures, les poupées, etc., etc. Hein, une catégorisation plutôt par type de jouets. Et petit à petit, la catégorisation par sexe, eh bien, elle devient majoritaire et elle commence à être employée vraiment par toutes les enseignes ou la majorité des enseignes. Donc début des années 90, on voit se développer des catégories garçons d'un côté, filles de l'autre, qui deviennent en plus majoritaires dans le catalogue. Il va y avoir ces deux grandes catégories, il y en aura d'autres. Moi, j'ai souvenir d'un catalogue Toys R Us où il y avait 16 rubriques en tout, dont du coup que deux rubriques, hein, garçons-filles. Deux rubriques explicitement sexuées, garçons-filles, mais ces deux rubriques prenaient plus d'un tiers des pages du catalogue. Ça veut dire que les 14 autres rubriques se partageaient les deux tiers restants du catalogue. Donc deux rubriques peut-être minoritaires en termes de nombre de rubriques, mais par contre en termes de nombre de pages, c'est très important. Et les jouets ensuite sont pensés du coup comme jouets de garçons, jouets de filles. Donc moi j'ai fait une observation participante dans un magasin de jouets. J'ai un petit peu modifié mon CV, on va dire, et puis je me suis fait embaucher dans un magasin de jouets comme vendeuse. Donc une observation participante à couvert, sans préciser que je faisais une recherche sur ces questions-là, dans un magasin Toys R Us. Et donc, dans ce magasin Toys R Us, il y avait un rayon garçon et puis il y avait un rayon fille. Donc du coup, quand vous allez dans un magasin de jouets et que vous avez besoin d'acheter un jouet, vous voulez acheter tel jouet, et vous devez penser en termes de catégorie sexuée. Hein, vous devez vous demander, tiens, ce jouet-là, chercher une petite voiture Cars, par exemple, et ben, pour réussir à la trouver dans le magasin, il faut vous dire « Ah, c'est un jouet pour les garçons, donc je vais trouver ça dans le rayon garçon. » Parce que ça se trouve clairement dans le rayon garçon. Donc il faut passer par ces rubriques sexuées, hein, par ces catégories sexuées, pour réussir à trouver les objets qu'on cherche dans le magasin. Bon, sauf si vous cherchez un lit de puériculture, quoi, pour les bébés, là vous savez que ça va pas être... Mais voilà. Donc les codes qui différencient les genres commencent vraiment à se développer à ce moment-là. Les rubriques dont je viens de parler, les couleurs aussi, petit à petit, on voit se développer beaucoup le rose pour les filles. Hein. Le rose n'était pas omniprésent avant, il y avait toute une palette de couleurs qui était utilisée. Le rose devient vraiment omniprésent pour les filles à partir du début des années 90, et le bleu pour les garçons par la suite, fin des années 90, début des années 2000. Bien que les garçons, il n'y a pas que du bleu, il y a aussi beaucoup du rouge, par exemple, de l'orange. Et puis, voilà, il y a plein de choses qui se développent. Les photographies aussi d'enfants, il y en avait beaucoup moins avant dans les catalogues de jouets. Des catalogues qui étaient beaucoup moins travaillés aussi, hein, beaucoup moins de pages dans ces catalogues. Et petit à petit, ça devient des catalogues extrêmement volumineux. Notamment le catalogue Packing Jouet Club, parfois, il fait 700 pages. Hein. C'est vraiment des catalogues vraiment énormes. Et ils sont distribués vraiment dans des gros volumes. Hein. Donc des photographies d'enfants aussi qui se multiplient, qui deviennent de plus en plus nombreuses dans les catalogues de jouets. Et ces photographies, elles contribuent aussi à assigner un genre au jouet. Quand vous mettez un garçon ou une fille, comme je l'ai montré avant, à côté d'un jouet, ça veut dire attention, ça c'est plutôt pour les garçons, ça c'est plutôt pour les filles. Donc ce que j'ai remarqué moi par rapport aux jouets en France, d'autres l'ont remarqué également, ça c'est intéressant aussi, sachant que j'ai lu toutes ces choses-là après moi l'avoir remarqué. Donc j'ai daté ça, cet accroissement de la segmentation au début des années 90, et après j'ai lu plein de choses, plein d'autres articles, livres, etc. Et finalement il y a plein de chercheurs qui l'ont mis au même moment que moi. Donc en faisant le lien, finalement on voit que ça se recoupe. Donc aux États-Unis, Elizabeth Sweet a réalisé sa thèse sur les catalogues Sears et a comparé, je crois, des catalogues de 1975 avec, je ne sais plus quelle année exactement, mais elle a remarqué que ceux de 1975 étaient beaucoup moins marqués du point de vue du genre que ceux d'aujourd'hui. Et elle voit que ça commence vraiment dans les années 90 à être de plus en plus marqué. Donc le rose n'a pas toujours été associé aux filles et le bleu aux garçons. Là, on voit par exemple un catalogue au bon marché en 1955. Où c'est plutôt inversé, des jouets traditionnellement adressés aux garçons, vous voyez, c'est une page rose, et ceux aux filles, c'est plutôt une page bleue. Mais en fait, ça alterne dans le catalogue, c'est pas très important, alors que là, vous voyez, après 50 ans d'évolution, c'est plutôt ça qu'on va remarquer. L'assignation des couleurs est récente, vous voyez, jusqu'en 93, on peut voir encore du rose derrière un petit garçon. C'est un petit garçon, certes, qui fait du bricolage, mais c'est rose. Et les accessoires de puériculture pour les filles, pour leurs bébés, qui s'est présenté comme ça, c'était pas présenté comme ça à l'époque, justement. C'était pas présenté comme spécialement pour les filles. On voyait moins de photos de filles et surtout, vous voyez, c'est du bleu. On trouvait beaucoup plus de bleu. C'est intéressant aussi qu'on puisse se poser la question des personnages beaucoup plus androgynes, justement, dans les années 80 et 90, qui, bon, aujourd'hui, non, c'est clair. Si c'est une fille, il faut que ça ait les cheveux longs, avec un petit nœud dans les cheveux, sinon c'est pas une fille. Donc là, on n'est pas d'accord, tous, mes collègues et moi. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un garçon, mais bon, il y en a qui disent que c'est plutôt une fille. Parce qu'il y aurait une jupe, mais bon, bref. Donc Leclerc 88, celle-là, elle est intéressante. Un garçon et une fille qui font le ménage ensemble, et il écrit tout en haut à gauche, « Tout faire à deux, c'est encore mieux. » Et vous voyez, le garçon, il fait pas semblant. Alors certes, il y a du bleu, on va faire remarquer, oui, mais bon, il est en bleu, elle est en rose. Mais bon, il fait pas semblant, il a des gants aussi, il passe vraiment l'aspirateur, etc. Donc voilà, on trouvait quand même ce type d'image. Et puis celle-là, qui est assez connue, Lego 81. Et puis même la Samaritaine 34-36, où on voit des filles, voilà, elles sont pas en train d'attendre à l'arrière. Alors, les actions féministes et leur impact sur le marketing. Je parlerai pas de toutes les actions féministes, il y en a beaucoup, donc j'ai vraiment ciblé sur quelques-unes. D'abord, les actions en magasin de mixité. Donc, mixité, vous connaissez peut-être l'association mixité. Alors là, c'est à Paris, je crois qu'à Paris, elle n'existe plus, mais il y en a beaucoup. Celle de Rennes qui est très active. Chaque Noël, au cours des années 2000, il y a eu des actions féministes en magasin, des actions un peu coup de poing. Donc moi, j'ai assisté à une action en particulier. On s'est réunis, c'était à Châtelet, vraiment au centre de Paris. On savait pas encore où on allait aller, mais c'était déjà prévu. Mais il y avait ce secret pour pas qu'il puisse y avoir de problème quelconque. Et puis finalement, on s'est rendu à Tati, magasin Tati de Place d'Italie en décembre 2008. Donc là, l'idée, c'était quoi? Des slogans, scandés, des trucs comme ça mis autour des jouets guerriers, parce que là, la thématique qui était ciblée, c'était les jouets guerriers. Donc, des jouets entourés, vraiment, pour interroger aussi les clients. Distribution de tracts, des chansons à chanter. Donc là, vous voyez une précision de ce que ça va être que cette action. C'est festif, dialogue avec les gens, c'est l'objectif, etc. Chaîne humaine autour du rayon jouets guerriers. Bon, Tati, c'est pas non plus un énorme magasin. Distribuer des tracts à l'extérieur, etc. Vous voyez là, c'est les slogans, des jouets pour s'amuser, pas pour dominer, etc. Pour les médias, télé, pas d'interview, radio, on lit des tracts, presse écrite à la discrétion de chacun. Donc pas trop mobiliser finalement les médias. À ce moment-là, on reste un peu discret vis-à-vis des médias. Et puis création d'un contre-catalogue que vous avez peut-être déjà eu entre les mains. Voilà, je vous ai pas mis les pages du catalogue, mais il se trouve en ligne. Vous cherchez contre-catalogue de jouets, hop, vous tombez dessus en PDF. Voilà, alors contre-catalogue, c'est, j'aurais dû mettre une image quand même, mais vous voyez une petite fille, je sais pas, qui joue avec un poupon par exemple, et puis là, vous voyez une femme adulte qui est en train de s'occuper de son bébé, quoi. Bon, voilà. Un garçon qui joue avec un revolver, plus tard, ça fait un peu un guerrier. Bon, c'est un peu, alors c'est rapide évidemment comme lien qui est fait, mais c'est un peu l'idée que ça socialise quand même les enfants, ça leur enseigne des choses. Des actions au magasin, alors il y en a eu plusieurs, un peu partout en France. Bon, j'ai pas été forcément au courant de toutes, mais en tout cas, celle-là, j'ai pu y assister. C'était à Paris le 13 décembre, dans le 13e arrondissement, dans un magasin Toys R Us. Et alors là, c'est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de groupes féministes, d'associations, d'organisations qui se sont réunis pour l'occasion, qui ont vraiment estimé que bah, ça pouvait être un combat commun, alors que c'est pas forcément toujours le cas. Donc là, vous voyez la barbe, les effrontées, les femelles, les Georgette Sand, etc. Et donc, là, vous voyez le magasin derrière avec une image. Alors là, vous voyez, c'est la presse qui a pris cette photo. Donc là, au contraire, je vais en parler, hein, mobilisation importante de la presse. Donc, action festive aussi dans le magasin, des slogans scandés devant le magasin. Princesse un jour, bonus toujours, par exemple. Ça, c'était sur le tract. Discussion avec les clients également. Alors, les clients, un peu comme dans Tati, hein, soit ils s'approchent, ils demandent ce qui se passe, comment ça. Voilà. Soit ils s'enfuient en courant, hein, genre, ah, vous m'emmerdez, machin, c'est bon, j'ai des courses à faire. Bon. Ça, c'est intéressant. Les tracts qui invitent les parents aussi à faire preuve de vigilance. Alors, le tract, on le trouve sur Internet, sur le site de l'Humanité. Voulez-vous conditionner vos filles à prendre en charge tous les travaux domestiques et vos garçons à les leur déléguer? Ne les mettons pas dans des cases, etc. Donc voilà, il y a tout un texte là-dessus. L'une des organisatrices, par mail, voilà, elle m'a parlé de l'objectif, c'était intéressant de s'interroger là-dessus. Informer les parents sur les pratiques de certains magasins, comme une filiale de Toys R Us qui ont dégenré leur catalogue en Suède, mais renforce les stéréotypes en France. Et aussi pousser les fabricants et les magasins à voir les conséquences sur les enfants et la société. Donc ça, c'est intéressant. Déjà, il y a une conscience aussi que ben, un même magasin, enfin une même enseigne, on va dire, comme Toys R Us, n'a pas la même politique en Suède et en France. Et effectivement, quand on consulte le catalogue en Suède, c'est beaucoup, beaucoup moins marqué sur le plan du genre qu'en France. Donc il y a une volonté aussi de marquer ou moins marquer selon les contextes des pays. Alors là, une volonté de visibilité sociale de ces actions-là au moyen d'une grande couverture médiatique. Il y a beaucoup, beaucoup de journalistes qui ont été sollicités, qui ont été prévenus. Alors, ils étaient sollicités à l'avance et puis les groupes leur ont dit que ben, on vous préviendrait le samedi vers midi de là où ça va se situer. Bon. En réalité, on trouvait déjà un petit peu l'information sur Internet, hein, mais voilà. La presse donc a été informée. Alors les réseaux des femmes qui a été largement mobilisé et donc ça a été un succès médiatique. Il y a beaucoup de journalistes sur le terrain, beaucoup d'interviews qui ont été données, des interviews aussi sur le plateau avec Ondelat, etc., etc. Mais alors du coup sécurité du magasin renforcée aussi. Hein, on a eu un bel accueil quand on est arrivé. Il y a eu beaucoup beaucoup de vigiles, beaucoup plus qu'en temps normal. Et puis les renseignements généraux qui directement sont arrivés, se sont présentés. Voilà, on est juste là pour vérifier que tout va bien se passer. Bon, ok, c'était clair. Alors, quelques difficultés d'observation qui sont intéressantes. Moi, j'ai travaillé, je vous l'ai dit, dans un magasin Toys R Us. C'était pas celui-là, c'était dans les Yvelines. Je ne précisais pas que je faisais une recherche, mais je l'aurais dit à la fin. Je leur ai dit que je faisais un travail de recherche à la fin. Et là, en l'occurrence, dans ce magasin-là, je le savais déjà avant que l'action ait lieu. C'est ce magasin qui a été choisi. Bah, mon collègue le plus proche, qui a travaillé vraiment dans le même rayon que moi, dans mon Toys R Us, il avait été muté, quoi. Il travaille dans ce magasin-là, maintenant, dans Paris 13. Donc, du coup, moi, c'était un petit peu délicat d'arriver dans le magasin, même si c'était qu'une observation neutre que je voulais faire. Je voulais juste observer ce qui se passait, prendre des photos, etc. Mais c'était délicat vis-à-vis de mon ancien collègue d'apparaître là, un petit peu au milieu des militants et des militantes. Parce que, voilà, c'est un peu dur pour les vendeurs à ce moment-là. Donc, une difficulté au niveau de la position. Les actions féministes connectées sont intéressantes aussi à analyser. Il y a de plus en plus de critiques du marketing genré qu'on trouve sur Internet. Et ça, c'est intéressant d'y penser un petit peu, de le voir un petit peu. Donc, on le verra aussi après avec les vidéos. Relayé grâce au web 2.0. Alors, le web 2.0, c'est le web où tout le monde peut participer, finalement. Facebook, Twitter, vous postez des trucs, tout le monde le voit. Les blogs, les Tumblr, etc., etc. Vous postez une vidéo, etc. Bon, tout le monde, finalement, participe à la mise en œuvre, à la contribution du savoir avec des encyclopédies aussi comme Wikipédia, etc. C'est pas juste vous allez sur Internet et vous prenez de la connaissance des choses, hein, vous en apportez aussi. Donc là, notamment la petite Riley, une petite fille américaine dans un magasin de jouets, vous avez peut-être vu la vidéo, on la trouve sur Internet, hein, Riley jouet, et elle se demande, mais je comprends pas pourquoi pour les filles c'est ces jouets-là, machin, bon. Et un peu plus récemment aussi, Maggie Cole en Grande-Bretagne, pareil, hein, c'est pour les garçons, machin, c'est pas normal. Bon, très relayé aussi, parce que quand c'est des enfants qui prennent la parole, bah là, tout de suite, il y a une sorte d'aura qui se produit. Ça a été très, très relayé. Et du coup, ça a contribué aussi à ce que bon, des gens qui se questionnent pas forcément sur ces questions-là voient ces vidéos et peut-être s'interrogent un petit peu aussi là-dessus. Par rapport au marketing, alors toujours la même chose, quand les enseignes sont critiquées, qu'est-ce qui se passe? D'abord, donc il y a des critiques de clients, d'abord, ça, pour qu'il y ait un changement dans le catalogue ou dans le magasin, il y a des critiques de clients d'abord. D'abord des critiques, ensuite les enseignes souvent font leurs excuses. On est désolé, on ne pensait pas que. Hein. Discours de justification. Les photos incriminées seraient le reflet des inégalités réelles. Donc là, ils vous disent, bah ouais, mais en fait, bon, bah, c'est, en même temps, c'est la famille. Hein. Dans la famille, il y a des inégalités. L'enfant a envie de faire pareil que dans sa famille. Donc nous, on n'y est pour rien. Hein, on ne fait que suivre les évolutions de la société. Le discours marketing, mais quand même, on est à l'écoute de nos clients. Donc si vous nous critiquez, quand même, bon, on va en tenir compte, évidemment, parce qu'on est à votre écoute, à votre service. Donc du coup, ils se servent de cette critique pour ils publient quelques photos. Une photo ou deux photos atypiques dans le catalogue. Un petit garçon qui tient un poupon, par exemple, et ils disent, bah, vous voyez, on n'est pas sexiste. Hein. Donc, publication de quelques images, mais c'est vraiment restreint, qui remettent en question les stéréotypes de genre. Ou s'ils ont été critiqués sur une image en particulier, retirent l'image. Point. Mais ça s'arrête là. Ils vont pas plus loin dans la réflexion sur le catalogue d'ensemble. Donc, ces photographies apparaissent vraiment comme une petite concession, alors qu'il y aurait vraiment un climat quand même d'insatisfaction de la clientèle. Et on a vraiment l'impression qu'on les arrache aux enseignes, qu'elles n'ont pas envie de le faire, mais que bon, bah quand même, il va falloir le faire parce que sinon, ils ont peur que ça puisse avoir des conséquences sur leur image de marque et donc sur leur vente. Des pétitions en ligne, ça c'est intéressant aussi. Là, vous avez Fanny F qui a lancé une pétition en 2012 liée à Verbaudet qui commercialise des jouets. Et on voyait ces sacs-là avec tous les accessoires qu'on peut mettre dans le sac. Donc là, plutôt du bricolage, et là, plutôt faire fichu, machin. Donc là, les textes qui sont en dessous, c'est un sac bien rangé comme maman ou presque, et des outils de bricoleur comme papa ou presque. Donc papa est bricoleur, et puis maman, c'est le côté pratique, hein, on range les choses quand même. Donc cette pétition a été quand même assez suivie, et ça a fonctionné, puisque Verbaudet a retiré, alors évidemment, uniquement ça, et a publié une image pour montrer que ils sont pas sexistes quand même. Donc ils ont publié ça. Et puis ils ont dit, nous regrettons sincèrement que le contenu de cette communication ait pu heurter ou susciter le doute sur nos intentions. On n'a pas ce type d'intention. Nous avons bien pris en compte la réaction suscitée par cette campagne. Nos équipes ont été à nouveau sensibilisées sur le sujet. Hein. Bon, sous-entendu, il y a quand même pas mal de formations sur le genre quand même de nos équipes. Et nous veillons encore plus à ce qu'aucune de nos communications ne puisse être considérée comme sexiste. Alors, Rachel Duriez aussi, qui a son Tumblr Fait comme maman, où là, elle épingle aussi des choses qu'elle trouve, notamment sur les sites internet. Elle publie les photographies, les argumentaires qu'elle juge sexistes. Et elle critique, elle envoie une critique par mail au service consommateur ou au community manager, sur Facebook aussi. Et elle dit, faut-il que je partage sur Facebook ou Twitter les pages de votre site comportant des descriptions scandaleuses pour que vous les retiriez ? Elle publie des échanges électroniques ensuite sur son site. Et ça fonctionne très très bien, puisque ils ont très très peur hein, qu'il puisse y avoir des critiques qui prennent un peu d'ampleur, et donc image de marque, et donc vente. Et donc là, du coup, les enseignes en général s'excusent très rapidement, hein, souvent dans les 2 heures, retirent les photographies ou retirent les textes. Mais pareil, on retire l'image en question, mais on ne va pas se poser une question sur des questions outre mesure. Donc là, un exemple sur Cultura. En tant que future maman, je me suis dit, tiens, allons consulter la rubrique Petite Maman de Cultura pour voir ce qui m'attend. Il y a aussi de l'humour, donc c'est ça qui est si amusant. Donc si je comprends bien, je vais faire la cuisine et la vaisselle, j'ai hâte, merci Cultura de me faire rêver. Et donc voilà. Donc là, Cultura qui a répondu le lendemain, merci pour votre message qui nous alerte sur un point qui est bien entendu totalement contraire à nos intentions. En aucun cas, nous ne souhaitons projeter auprès des enfants une image dégradante des femmes et des mamans, proposer une vision sexiste de la société. Ces produits commercialisés sont effectivement classés dans le but d'ordonner le rubriquage du site et de faciliter la recherche des jouets. Ça, c'est un argument qu'on trouve souvent. C'est pour faciliter. Bon, sauf que voilà, les gens qui vont dans le magasin de jouets, ils pensent pas forcément voiture cars égale garçon. Donc, je vais dans la rayon garçon. Souvent, on me demandait, mais je comprends pas dans quel rayon ça peut être, quoi. Un autre exemple aussi, critique de l'argumentaire de la grande récré par mail avec menace. Alors, l'argumentaire, c'était un chariot aspirateur qui va permettre à toutes les petites filles de faire le grand ménage dans la maison. À l'aide d'un aspirateur, d'une pelle et d'une balayette, elles pourront désormais aider maman à nettoyer toutes les pièces de la maison. Donc voilà, donc c'est maman qui fait tout le ménage à la maison, papa n'en fout pas une. Et en plus, c'est la petite fille qui va vouloir faire ça, qui va vouloir faire comme maman. Donc sous-entendu, forcément, chez toi, c'est forcément maman qui fait tout. Une petite fille qui n'aurait pas maman qui fait tout, bah, elle pourrait pas aider maman, ce serait bizarre quoi, comme argumentaire. Donc forcément, c'est maman qui fait tout, et puis forcément, c'est la petite fille qui va être intéressée par ces activités-là. Alors, 2 heures plus tard, ils ont répondu, sachez tout d'abord que nous regrettons vivement l'orientation du descriptif de ce jouet qui n'aurait jamais dû figurer sous cette forme sur notre site. Il a été supprimé, etc. Bon, puis nous, on n'est pas sexiste. Regardez, on a créé la gamme Timélou. C'est la grande récré. Souvent aussi, le magazine, le catalogue Super U, Hyper U, donc les magasins U, est pris comme exemple de quelque chose qui serait pas sexiste. et voilà, qui interroge. En tout cas, voilà, là, on voit les images qui ont été extraites du catalogue en 2012. Alors, on peut se demander si vraiment c'est pas marqué du point de vue du genre ou pas. Là, c'est des images qui ont été beaucoup médiatisées. Or, c'est uniquement quelques images qui ont été prises du catalogue, hein, avec, pour faire un petit patchwork. Mais si on prend l'ensemble des images du catalogue, l'ensemble des images va dans le sens des stéréotypes classiques. Hein. Si on prend juste ces images-là, on a l'impression que c'est une inversion des stéréotypes, donc d'autres stéréotypes. Mais c'est pas ça, c'est juste un patchwork qui a été fait, et du coup qui a eu comme conséquence aussi que y a plein de gens qui ont pensé que c'était une inversion des stéréotypes de genre. Mais c'est pas une inversion. Si on prend l'ensemble des images, non, les stéréotypes vont dans le sens classique, mais par contre, il y a des images dans le catalogue qui remettent en question les stéréotypes. Bon, bah Thierry Dessouche, lui dit, bon, en fait, il y a des gens, il y a des clients qui se sont... qui sont venus voir le service consommateur, qui nous ont dit bah ouais c'est un peu sexiste un peu quand même ce que vous montrez, etc. Donc nous on tient compte quand même de ce que nos clients pensent et disent et on s'adapte. Le discours c'est ça. Sauf que bah, quand on regarde, moi j'en ai plein des anciens catalogues et les catalogues Hyper U et Super U, vous voyez, avant 2012, parce que 2012 ça a fait le buzz hein, sur internet, ah super Hyper U et Super U mais remet en question les stéréotypes de genre, et il y en a plein qui ont pensé que c'était lié au mariage pour tous, parce que 2012 mariage pour tous, 2012 théorie du genre aussi. Et, sauf qu'en réalité, quand on regarde dans un catalogue, ça n'a rien à voir avec mariage pour tous, machin. 2010, on trouve ça, 2006, on trouve ça, 2003, on trouve ça, et il y en a plein d'autres comme ça. Donc c'est pas vraiment en lien. Et puis du coup, est-ce que c'est vrai que les gens sont allés voir le service consommateur pour critiquer et que du coup ils auraient tenu compte de ces remarques-là? Moi, ça me semble. Enfin, peut-être qu'il y a eu des critiques, mais en tout cas, il y avait déjà des choses avant, ce qu'il a pas l'air de savoir, ou en tout cas ce qu'il ne dit pas lors de l'entretien. Et puis, est-ce que c'est vraiment révolutionnaire? Ben voilà, moi j'ai fait mon propre patchwork à des images de 2013 en l'occurrence, et vous voyez, ça c'est des images qui vont dans le sens des stéréotypes classiques. Hein, de ce côté-là, c'est plutôt tout ce qui est pour les garçons, là pour les filles, on voit des petites filles qui s'occupent de poupées, de se faire belle, etc. Donc ça a été assez trompeur finalement, ces quelques images prises de leur contexte, qu'on a pris pour le tout. On a pris quelques images pour le tout, comme si c'était un ensemble et qu'il y avait une remise en question générale, ou alors que c'était une inversion des stéréotypes. On a lu dans la presse, c'est une révolution, c'est une inversion, c'est etc. C'est pas le cas. Et là, dans le sommaire, on voit qu'il y a encore filles et garçons. Dans le sommaire de tous les catalogues que vous pouvez regarder, 2012, 2013, 2014, il y a encore des filles et garçons, univers filles, univers garçons. Mais par contre, effectivement, par rapport aux autres catalogues, quand même, il y a des remises en question, et des remises en question qui ne sont pas minoritaires dans le catalogue. Donc ça, il faut quand même aussi en tenir compte. Voilà, dernière partie. Donc, quelles sont les stratégies des parents pour déjouer ces injonctions normatives dans le marketing du jouet? Alors, déjà, un extrait d'un entretien que j'ai mené avec deux enfants, là, deux frères. J'ai mené quelques entretiens, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais bon, voilà, là, j'en cite un. Alors, deux frères qui ont, je crois, 6 et 8 ans. Donc, je leur demande, alors, je leur montre un catalogue. Pour interroger des enfants, souvent, j'essaie d'apporter des catalogues de jouets, d'apporter des supports pour qu'ils aient des choses à me dire et à me raconter, notamment pour les plus jeunes. Et quand c'est possible, j'essaie de les interroger dans leur chambre. Parce que comme ça, ils me montrent les jouets, ou dans leur salle de jouets, quoi. Comme ça, ils me montrent les jouets, etc. Et c'est plus facile que juste poser une liste de questions pendant 2 heures à un enfant qui n'a pas forcément envie de me répondre. Notamment pour les plus petits, la médiatisation vraiment des objets, des jouets, c'est plus simple. Et puis pour ceux qui ont 8-9 ans, le catalogue, ça peut aller. Donc moi, c'était des enfants que je ne connaissais pas. Je ne connais pas non plus leurs parents. Je les ai interrogés chez eux par le biais de leur babysitter. Mais même si je ne connais pas leurs parents, eux, ils me parlent de leurs parents. C'est ça qui est aussi intéressant. Et donc, je leur montre le catalogue, ils me font ah non, leur passage, ça plairait pas à des garçons. Donc, je leur demande, là, je vous donne le contexte, hein, comment tu sais que leur passage, ça plairait pas à des garçons? Donc, Pierre, parce qu'à chaque fois, on voit maman faire leur passage et jamais papa. Donc, voilà, ils m'introduisent un peu dans leur famille, alors je ne les connais pas. Donc, on voit maman faire leur passage et jamais papa. Et c'est intéressant, c'est que dans le discours des enfants, souvent, il y a maman et papa dans chaque phrase, quoi. Mais c'est l'un le fait et l'autre ne le fait pas. C'est pas juste l'un le fait. Hein, c'est pas c'est maman qui fait le repassage. C'est maman qui fait le repassage et pas papa. Il y a toujours, on compare toujours à chaque fois. Donc parce qu'à chaque fois, on voit maman faire le repassage, jamais papa. Et pourquoi papa il fait pas le repassage? Bon là, j'ai pas très bien compris l'enregistrement au dictaphone. Oui, par contre, la cuisine, c'est pour les deux. Le week-end, papa il fait la cuisine. Donc effectivement, les enquêtes en sociologie montrent que la cuisine reste quand même une activité plutôt exercée par les femmes, notamment la cuisine quotidienne, invisible, qu'on doit faire tous les jours. On n'a pas forcément le temps, mais il faut bien la faire, parce qu'il faut bien manger, il faut bien que les enfants mangent. Par contre, la cuisine, quand il s'agit plutôt d'une activité récréative, entre guillemets, de loisir, quand on a l'occasion de faire un bon petit plat, d'inviter des amis et qu'il y ait une gratification symbolique, là, souvent, le week-end, il va y avoir plus d'hommes qui vont faire la cuisine. Donc, en tout cas, il observe, lui, que le week-end, même si c'est que le week-end, bah, papa, il fait la cuisine. Donc, ça veut dire que c'est pas une activité juste de femme, quoi. Et le nettoyage, bah, c'est pour les filles. Et pourquoi? Bah, je sais pas, parce qu'on voit toujours maman faire le ménage à la place de papa. C'est intéressant, les formulations, moi, j'aime bien. Et la couture, c'est pour les filles parce que mamie, elle fait de la couture. Bon, pas à la place de papy, mais en tout cas, mamie, elle fait de la couture. Donc moi, je les interrogeais juste sur les jouets. Et vous voyez, ils associent vraiment, ils donnent un genre aux jouets en fonction des objets réels utilisés dans la vie courante et des activités réelles faites par leurs parents et par leurs grands-parents. C'est ça qui est intéressant. Hein. Assignation d'un genre aux jouets par rapport aux activités et aux objets réels. Donc Franck Maté, lui, Ludendo, alors lui, il est... directeur marketing, quelque chose comme ça. Ludendo, c'est un groupe qui comprend notamment la grande récré. Et donc, lui, il me fait... Je vous expliquais que la société, elle évoluait. Après, la problématique, c'est à quelle vitesse est-ce qu'elle évolue. Donc, comment est-ce que nous, on va accompagner cette évolution? Donc, voilà, on n'est pas avant-gardiste. On accompagne une évolution. Bon, sauf que, comme je vous l'ai dit, le marketing du jouet est beaucoup plus inégalitaire que la réalité. Donc, on n'est pas sûr que vraiment, il l'accompagne. Ou alors, il l'accompagne, mais quatre pas en arrière, quoi. Et donc, je lui demande s'il y a un bureau d'études qui a réfléchi à tout ça. Il me dit, ah non, c'est notre ressenti. On a la chance d'avoir dans notre magasin des milliers de personnes tous les ans. On a des contacts réguliers avec les clients, etc. On est à l'écoute de nos clients. On s'adapte à ce qu'ils veulent, blablabla. Les correspondances qui nous sont adressées. Donc, il y a toujours ça qui revient systématiquement. Et puis, pareil, l'âge moyen de nos vendeurs, c'est jeune. Donc, c'est aussi des parents. Ils connaissent les enfants, blablabla. Donc, vous voyez, nous, on sent. On est dans l'art du temps, on a ce ressenti client qui va se matérialiser derrière par des actions, par des images, par des messages, tout un ensemble de choses. Alors là, c'est intéressant. Même si beaucoup de gens vous disent qu'on est sur une égalité entre l'homme et la femme et ainsi de suite, la réalité du foyer est tout autre. C'est la maman qui fait le ménage, c'est la maman qui fait les courses, c'est la maman qui fait à manger, et le papa, lui, il glande devant la télé. C'est caricatural, mais c'est un petit peu ça. Eh bien, ça, on va le retrouver dans le jouet. La petite fille, elle voit sa maman en train de faire à manger, et ça lui plaît. Donc il y a des jeux qui lui permettent de faire la cuisine, donc elle va vouloir une cuisine, elle va vouloir faire comme maman. Les activités ménagères, c'est pareil. Évidemment, pouponner, c'est plus le rôle de la maman que du papa. En tout cas, la façon de faire de la maman est différente de celle du papa. Dans la petite fille, elle va vouloir reproduire ce schéma-là. Donc finalement, on est dans l'imitation, dans le décodage du monde extérieur. Et ce décodage, il est fait par l'enfant à travers l'activité qu'il va reproduire. Donc finalement, le marketing du jouet en soi n'est pas vraiment sexiste ou sexué. Hein, c'est plutôt ce qui se passe dans la famille qui le serait. Et eux, ils s'adaptent. Donc le rôle de fabricant, toujours dans l'entretien, c'est d'identifier ce qui va, pour qui il va faire ce produit, c'est-à-dire quel utilisateur, dans quelles conditions. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, les activités ménagères sont la reproduction de ce qui se fait dans le foyer, et que donc les acheteurs pour les activités ménagères à 99% c'est les petites filles. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter l'idée que sa cible principale c'est la petite fille, etc. Convient à la table à repasser de la même collection, fait comme maman, c'est presque vrai. Bon, d'autres exemples vite fait, Toys R Us, le site internet en 2014. Vous voyez, l'aspirateur Dyson est le même que maman. Maman est très contente, elle regarde derrière amoureusement sa petite fille en train de faire le ménage exactement comme elle, en se disant plus tard, ce sera une bonne épouse. En bas, elle promènera son bébé comme une vraie maman. Donc là où il y a les deux petites filles. Et puis, alors ça c'était Nature et Découverte, j'ai pas mis l'année, mais je crois que c'est 2009. Et puis Nettoyer à deux, c'est mieux. Casa 2012, là pareil, hein, vous voyez, vraiment une transposition quand même. Hein. Elles sont habillées un peu pareil. Hein. Elles ont toutes les deux les coccinelles, etc. Le même balai, un petit peu la même posture, etc. Et puis c'est tellement plus amusant de faire ça entre femmes. Le rôle des objets de l'enfance, alors Anne Dafour-Novel, qui est une psychologue sociale en 2010, elle nous montre que les enfants observent les activités de la vie quotidienne et font des statistiques en quelque sorte sur qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure quand j'ai cité les deux enfants. Ils voient que c'est plus maman qui fait le ménage, donc pour eux le ménage c'est maman, c'est les femmes, c'est voilà. Même si la vaisselle est répartie équitablement dans le couple parental, ça c'est intéressant, les enfants vont voir que cette activité, c'est féminin, c'est les femmes qui le font, dans les livres et dans les jouets, et donc ils vont se dire que c'est une activité féminine. Parce qu'en fait, il y a une socialisation importante qui se passe par le biais des objets de l'enfance. Même si c'est égalitaire à la maison, Si ça ne l'est pas dans les livres, dans les jouets, à la télévision, dans les jeux vidéo, dans machin, dans trucs, etc., ben, du coup, il y a tellement de biais par lesquels ça va être inégalitaire que les enfants vont quand même intégrer que bah, ouais, c'est pas forcément un truc mixte. Ça, c'est intéressant. Donc, les stéréotypes diffusés par les objets de l'enfance sont un filtre de perception du monde. Elle nous dit, dans ce processus de construction des connaissances sexuées, les représentations médiatisées comptent autant, sinon plus, que ce que vit réellement l'enfant dans son univers familial. Donc, ne pas sous-estimer ce qui se passe par les objets de l'enfance et ne pas penser que à l'univers familial. Donc là, je cite un cas, juste un, les stratégies des parents, notamment qui ont un fort capital culturel, parce que c'est eux qui mettent en place ces stratégies, justement pour déjouer le marketing genré. Donc là, j'ai interrogé une petite fille, Béatrice, 8 ans, et elle n'aime pas tellement certains jouets, donc c'est intéressant d'analyser ça. Donc elle me dit, la plupart des filles adorent les poupées Barbie, mais moi, j'aime pas trop ça. Je lui demande pourquoi. Je trouve que c'est plutôt crâneur, enfin, j'aime pas la couleur rose, je sais pas pourquoi. Et les Barbie, elles sont souvent roses, puis j'aime pas leur caractère. Je lui demande c'est quoi leur caractère. J'aime pas comment elles parlent, un truc du genre, je sais pas trop. J'aime beaucoup les chats, les dragons. Les dragons, j'en ai plein de trucs, un dragon là. Alors là, elle est dans sa chambre, donc elle me montre. Et pourquoi t'aimes bien les dragons, je sais pas. Donc c'est assez typique finalement. Elle a des goûts, mais elle sait pas d'où ils viennent. Vous, si je vous demande pourquoi vous avez ces goûts-là, c'est compliqué aussi de savoir l'origine de ces goûts, la genèse de ces goûts. Et en même temps, elle aime pas le rose, elle aime pas le caractère des Barbie, par exemple, elle aime pas les Barbie. Et puis elle sait pas pourquoi, mais elle aime pas les dragons. Enfin, elle aime les dragons, pardon. Donc des goûts assez atypiques. J'interroge sa mère. Sa mère, elle est chercheuse en sciences de l'éducation, spécialisée dans les questions de genre. Donc, elle n'est pas représentative, on est d'accord, de la population française, mais c'est significatif. C'est intéressant parce que c'est significatif. Et en interrogeant ensuite d'autres parents qui sont avec des profils assez similaires, j'observais globalement les mêmes choses. Donc, les parents à fort capital culturel développent des stratégies pour orienter les goûts de leurs enfants. Donc, cette mère, elle me dit que les parents sont fans de jeux de rôle. Donc, sur les Barbies, ça, on renforce pas. Autant là-dessus, ça nous intéresse, les dragons, donc on renforce. Donc, elle sait que si elle veut attirer notre attention sur des choses, il vaut mieux qu'elle nous parle de dragons et de vampires que de Barbie. Donc, renforcement des apprentissages, qui est un concept classique, en fait, en sciences de l'éducation. Ça, c'est intéressant. La petite fille a baigné dans cet univers-là depuis qu'elle est petite. Donc, pour elle, voilà, c'est super adorable. Ensuite, le rejet des Barbies, elle me fait « Ah, ça, c'est clairement induit par nous. Hein. On a fait un embargo anti-Barbie. Ah, les Barbies, quelle horreur. » Dénigrement. Quand elle était petite, elle était très très fan du rose, hein, une vraie petite fille. D'ailleurs, elle s'est habillée largement en rose. C'était pas un embargo à 100%, mais quand même, on a signifié que les Barbies, c'était pas notre truc. Et puis, pour ses anniversaires, elle a eu des copines qui lui ont offert des Barbies, par exemple. Donc, elle a eu des Barbies. Mais assez rapidement, elle s'en est désintéressée. Bah, c'est sûr que si on était davantage investi, encore une fois, renforcement dans les Barbies et qu'on l'avait davantage renforcée quand elle jouait avec les Barbies, il n'y a aucune chance, à mon avis, qu'elle s'en soit désintéressée. Ça, c'est clair, on est entièrement responsable de son désintérêt pour les Barbies. Donc une induction, hein, un dénigrement et en même temps une concurrence des instances de socialisation. La mère, on voit que il y a une concurrence des amis qui vont offrir parfois des Barbies. Elle le dit pas dans cet extrême, il y a aussi une concurrence des grands-parents, notamment la grand-mère maternelle qui parfois va acheter des trucs roses, des Barbies, des machins, et elle est horrifiée et tout. Et donc, pareil, elle a des stratégies pour mettre à distance un petit peu tout ça. Bon, je développe pas, j'ai pas le temps. Mais... Donc il n'y a pas d'interdiction formelle. En fait, le père voulait interdire les Barbies. La mère a dit, non, mais si on interdit, elle risque d'avoir encore plus envie de jouer avec les Barbies, donc il vaut mieux pas qu'on interdise, on va plutôt induire. Effectivement, les parents n'ont pas interdit les Barbies, mais ont fait en sorte de les dénigrer systématiquement quand ils passaient à côté. Donc, et justement, c'était intéressant parce que les mots qui étaient utilisés, c'est justement, oh, t'as vu comme elle a l'air cruche. Les mots, finalement, que la petite fille a utilisés dans son entretien. C'est deux entretiens à part. La petite fille a utilisé ces mots-là, bah, la mère, dans l'entretien, a utilisé les mêmes mots. Ah, t'as vu comme elles ont l'air cruches, etc. Et ben la petite fille a intériorisé cette idée qu'elles avaient l'air cruches. Donc le dénigrement, il passe beaucoup par le ton. Hein. Et Christine Détré et Olivier Vanet, qui ont fait une enquête sur les mangas, qui s'appellent les mangados, ont remarqué aussi, quand on lit les entretiens, que le ton employé, notamment par les classes favorisées, que ce soit les jeunes filles ou leurs parents, c'est un dénigrement par une voix suraiguë, par exemple. Oh là là, je vais me faire belle aujourd'hui pour aller au salon de beauté. Voilà, des choses comme ça. Hein. Une critique un peu comme ça, du féminin vraiment poussé un peu à outrance, la surféminité surjouée. Elle voulait développer le champ des possibles aussi de sa petite fille. Pour varier les choses, on a essayé d'induire des jouets de garçons. Simplement, le fait qu'on lui propose, même si elle n'aime pas, ça montre qu'on peut lui proposer. C'est pas aberrant qu'on peut lui proposer ce genre de jouet-là. Et d'ailleurs, dans la palette, bah, la voiture téléguidée, ça marchait. Au moins, on lui a montré qu'on pouvait lui proposer, même si... Parce qu'on n'a pas besoin de lui proposer des poupées Bratz ou des Barbie. Il y a des tas de façons où elle va être sollicitée pour s'y intéresser. Par contre, ces autres jouets-là, il n'y a pas spécialement de raison qu'on les lui présente. Donc même si elle ne veut pas, au moins on lui a proposé, c'est possible quoi. Donc elle se rend compte qu'il y a les autres instances de socialisation qui vont la pousser sa petite fille à aimer certaines choses, à appréhender certaines choses. Donc elle va plutôt lui proposer d'autres jouets pour ouvrir la gamme, hein, de jouets possibles. Et là, donc c'est la fin de ma troisième partie. La liste de Noël aussi peut être vue comme un compromis familial. Alors notamment Christine, Sandrine Vincent qui a travaillé sur ces questions-là, qui a fait sa thèse là-dessus à Marseille en 99. Globalement, et je l'observais moi aussi dans mon enquête, les enfants sont prescripteurs des jouets achetés à Noël. C'est souvent les jouets qui sont achetés, souvent c'est les enfants qui les ont demandés. Et ils ont fait une liste et c'est souvent les jouets qu'ils ont demandés qu'ils obtiennent à Noël. Donc 90% des enfants établissent une liste de Noël et 86% des parents déclarent acheter les jouets selon cette liste. Donc elle est importante cette liste. La liste transite par les parents dans 89% des cas et ils la diffusent parfois à l'ensemble de la famille. Ça peut être une stratégie notamment de certains parents pour contrecarrer un petit peu, on va dire, la liberté des grands-parents. Pour que les grands-parents n'achètent pas des jouets considérés comme super sexistes, les parents vont donner des jouets de la liste des enfants aux grands-parents, hein, pour qu'ils se tiennent à cette liste-là. Donc la liste, c'est une stratégie qui vise à un compromis entre le respect des choix des enfants et le contrôle de ces choix. Ça veut dire quoi ? Ben, plus les enfants vont mettre de jouets dans leur liste, plus les parents vont avoir du choix dans ces jouets pour en éliminer certains qu'ils ne veulent pas et pour garder ceux qui leur semblent intéressants. Donc pour les enfants, l'intérêt, c'est plutôt de mettre très peu de jouets pour être sûr d'obtenir ces jouets-là. J'ai fait une intervention devant des lycéens et une lycéenne qui me dit « Mais en fait, il vaut mieux pas mettre beaucoup de jouets. Ouais, » Exactement. C'est un peu trop tard. De quoi elle m'a dit « C'est trop tard, on aurait dû savoir avant. » Bah, tant pis. Donc, du coup, il y a certains jouets sont éliminés par les parents parce qu'ils sont considérés comme, il y a plein d'arguments, hein, trop volumineux, surtout sur Paris, on n'a pas vraiment beaucoup de place, hein, trop cher, déjà possédé, où l'enfant ne va pas l'utiliser longtemps, mauvaise qualité, pas adapté à son âge, pas adapté à son sexe aussi, c'est un argument qui revient, pas adapté aux valeurs des parents, notamment les Barbies, ah mon Dieu, c'est sur le plan des représentations du corps féminin, ou les armes aussi, c'est beaucoup critiqué, la violence, machin, la guerre. Dans les milieux populaires, c'est intéressant, d'après les discours, il y a assez peu de contrôle et de négociation. Les discours des parents, dans les milieux populaires, c'est « moi, je veux faire plaisir à mon enfant. Ce qu'il me demande, j'essaie de lui offrir. Hein. Je lui offre ce qui lui plaît. Je m'adapte. Je ne m'implique pas. » Finalement, il fait ses propres choix. Il se construit, finalement, en dehors de toute influence. Et surtout, moi, je l'influence pas du tout. Hein. C'est lui qui fait ses choix. Il se construit, on sait pas trop comment, mais il se construit tout seul. Il y a une référence systématique à la satisfaction des souhaits des enfants, même dans le cas où les jouets sont peu appréciés par les parents. Alors là, je cite Sandrine Vincent, « Les parents de milieu populaire semblent éprouver une certaine fierté à dire qu'ils satisferont pleinement leurs enfants en leur achetant tout ce qu'ils désirent, sans négociation particulière, si ce n'est pour leurs enfants l'obligation d'utiliser ce qui leur sera offert. » Donc, montrer que, ben oui, ils n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais en tout cas, ils s'occupent bien de leurs enfants. C'est ce qui est montré dans d'autres enquêtes, en sociologie de l'alimentation, par exemple. Voilà, il faut montrer qu'on arrive bien à nourrir son enfant, etc., etc. Bon, ben là, c'est pareil, hein. Il faut montrer que l'enfant ne manque de rien, en particulier de jouets. Dans les milieux sociaux, capitaux culturels élevés, donc des parents fortement diplômés, il y a un contrôle beaucoup plus important et des négociations importantes. Donc, il y a quand même une référence à la satisfaction des souhaits des enfants, hein. Mais en plus, il y a d'autres choses. Plus d'interventions pour que la liste corresponde vraiment à leurs critères. Et une intériorisation de ces critères par les enfants qui ne vont plus que formuler des vœux réalistes, une autocensure. Sandrine Vincent nous dit ça. Donc ils savent très bien que, je sais pas, ils veulent absolument une voiture téléguidée, mais ils ne l'auront pas, ils savent qu'ils ne l'auront pas, ils ne vont pas le mettre sur leur liste, quoi. Alors, je conclue en trois diapos sur les trois parties. Le marketing du jouet, d'abord. J'ai parlé des stéréotypes qui sont véhiculés à la fois par les catalogues. Alors, j'ai plus ou moins développé les éléments. Hein. Catalogue, magasin, les boîtes, etc. Les univers proposés avec d'un côté le travail productif, hein, du côté des garçons, du côté le travail reproductif. Des métiers auxquels on peut s'intéresser, et qu'on peut cibler comme médecins, infirmières, etc. La représentation des corps. Et puis l'accroissement de la segmentation marketing. Alors peut-être ce que je peux repréciser, c'est vraiment que... ça s'accroît et ça se diffuse, notamment au premier âge. Hein, le premier âge, de plus en plus, y a une segmentation. Le premier âge, jusqu'à maintenant, c'était relativement épargné. C'est, oui, bon, c'est vraiment pour les bébés, donc voilà. Ils sont pas encore sexués, blablabla. Bon, mais là, de plus en plus, il va y avoir, dès la naissance, hein, des gammes pour les filles, des gammes pour les garçons. Donc, du coup, les parents qui sont soucieux de faire en sorte d'éviter de rentrer là-dedans, souvent, ils me disent, dès la naissance de leur enfant... que ben, ils se retrouvent coincés, ils arrivent dans les magasins, c'est soit rose, soit bleu, par exemple. Hein. Et donc, c'est assez difficile de naviguer là-dedans. Rôle des distributeurs, mais aussi des fabricants, parce que les distributeurs, ils sont beaucoup critiqués, ils sont sous le feu des projecteurs, les fabricants, beaucoup moins. Ils sont bien planqués derrière. Hein. Les fabricants, je pense qu'il faut aussi se questionner là-dessus. Parce que c'est eux qui font les boîtes, c'est eux qui font les jouets, etc. Et que les images qu'on trouve dans les catalogues de jouets, des distributeurs, les catalogues des magasins, Carrefour, machin... Très souvent, ces images-là, elles sont fournies par les fabricants. Donc ensuite, le distributeur, lui, il a accès à une banque d'images, il peut sélectionner les images au sein de cette banque d'images. Mais malgré tout, voilà, ces images-là, quand on critique ou quand on dit c'est super ce que Super U, Hyper U fait, oui, mais attention, il y a peut-être certaines de ces images-là qui ont été données par les fabricants. Donc ils ont décidé, ils ont accepté de prendre ces images-là quand même, donc ils ont un rôle évidemment là-dedans. Mais il y a les fabricants derrière, hein, qui sont très peu critiqués. Marketing genré, stratégie parentale, donc les parents qui effectuent une socialisation latente sans forcément s'en rendre compte, après qui disent moi non mon enfant machin, mais pourtant ils socialisent leur enfant sans s'en rendre compte. Les enfants observent les inégalités dans les pratiques conjugales des parents, comme on l'a vu tout à l'heure. S'ils observent que c'est plutôt maman qui fait le ménage, etc., bah pour eux c'est une activité féminine. Donc ça, c'est quand même, ça fait partie de la socialisation. Les parents, donc les distributeurs, les fabricants incitent les enfants à se projeter dans ce monde inégalitaire, hein, fait comme maman, etc. En se basant justement sur ce que les enfants verraient dans leur famille. Donc les objets de l'enfance, c'est une instance de socialisation à part entière, comme l'a dit Anne Dafour-Noël. Par contre, les parents de milieux à fort capital culturel ont conscience de ce rôle du marketing dans la construction identitaire de leurs enfants. Cette instance, le marketing, est considérée comme concurrente, de la même manière que parfois les grands-parents, les amis, etc., etc. Et donc du coup, ils vont essayer de contrecarrer un petit peu les effets de ces autres instances. Alors que les parents d'un milieu sociaux moins favorisés vont pas forcément essayer de contrecarrer ça. L'enfant, il adore les véhicules, ben voilà, c'est son goût, c'est son identité. Le petit garçon, il adore les voitures, on va lui offrir des voitures pour lui faire plaisir. Alors que là, il y a quand même une réflexion de, ben oui, peut-être que s'il aime les voitures, c'est parce que le marketing y est allé à fond sur les voitures, donc on va essayer de lui proposer un petit peu autre chose pour ouvrir son champ des possibles. Hein. On ne prend pas l'identité comme une donnée quoi, qui ne bougerait pas. Donc l'idée qu'ils ne partent pas de rien dans leur socialisation. L'enfant, c'est pas rien, et donc il se construirait un petit peu sans aucune incidence, sans aucune influence. C'est le questionnement aussi du jeu libre, qui est beaucoup, c'est un argument qui est beaucoup mis en avant par les professionnels, notamment les professionnels de la petite enfance, dans les crèches, dans les bibliothèques, etc. C'est le jeu libre. On laisse les enfants jouer, et ils jouent à ce qu'ils veulent jouer. C'est leur identité, leur goût, etc. On les laisse jouer. Sauf qu'en réalité, ça veut dire quoi, jeu libre? Parce que l'enfant, il ne vient pas en faisant table rase de toute la socialisation qu'il a eu auparavant. Hein. Le jeu n'est pas réellement libre dans la mesure où bah, il y a eu plein de choses qui ramènent avec eux, tout un habitus, si vous voulez, une socialisation qui ramène avec eux, qui font que ben ils vont peut-être pas oser jouer avec certains jouets, au contraire, ils vont jouer avec certains autres jouets parce qu'ils savent comment ça marche, et parce qu'il peut y avoir le regard de l'adulte derrière, qui peut faire des critiques ou pas, hein, des professionnels, des parents qui viennent rechercher leur enfant, etc. Donc, jeu libre, ça questionne évidemment. Ça. Bon, les parents, gros maman, qui disent « Moi, je laisse mes enfants choisir. » Oui, mais choisir dans quoi comme gamme, quoi. Donc, dans les milieux à fort capital culturel, il y a cette idée quand même qu'il faut déconstruire les normes véhiculées par les autres instances qui sont concurrentes. Et donc, ils ont des stratégies de mise à distance, comme on l'a vu, dénigrement, ton de la voix, etc., et d'introduction de certains jouets. Les enseignes tiennent à leur image de marque, hein, pour elles c'est très très important. Internet s'est perçu vraiment comme un risque, hein, le fait que tout le monde peut prendre la parole et finalement quelque chose peut se diffuser comme une traînée de poudre très très rapidement. Donc elles ont peur qu'une critique soit médiatisée et que ça puisse leur faire du tort. Donc elles font des concessions, mais c'est de manière très circonscrite. Donc modalité publique, voilà, pour essayer de faire bouger les choses, les interpeller publiquement, visiblement ça fonctionne bien, par le web 2.0 qui facilite la lutte féministe, et une pression soutenue dans le temps où systématiquement il faut leur rappeler finalement des choses, et puis systématiquement parler d'une image, critiquer une image, puis une autre, etc. Et médiatiser tout ça, ça permet qu'il y ait une remise en question. Voilà, dans la présentation.